Quelle joie d'être de nouveau réunis avec vous pour célébrer notre Dieu. Les gens nous ont demandé si on voulait être de retour de nos vacances au Brésil. On a dit oui, bien sûr, on se sent à la maison ici à Orbe et avec vous. Et on est très content d'être là aussi pour vivre ce culte avec vous et pour célébrer Dieu, le Créateur de toutes choses. On commence aujourd'hui cette nouvelle série appelée « Le monde incroyable créé par Dieu ». Et l'idée, en fait, elle est née chez Mélina. Un jour, elle est arrivée avec ce dessin, le prochain, et elle m'a dit « J'ai trouvé une idée pour des prochaines séries avec les adultes ». Et ça s'appelait « Le monde magnifique, même incroyable de Dieu ». Et plusieurs fois dans l'année, il m'a demandé « Alors, tu as fait cette série ?» J'ai répondu « Non, pas encore, mais ça va venir ». Et finalement, c'est arrivé. Du coup, c'est elle qui m'a aidé à choisir aussi l'image pour l'affiche de cette série. Et j'ai dû négocier. Je dis « Ce titre il est peut-être un peu trop long. On peut le raccourcir un petit peu. » Et puis elle dit « Non, non, je veux ce titre exactement comme je l'ai écrit. » Mais finalement, après, elle a accepté. Et puis on a pris « Le monde incroyable créé par Dieu ». Pour cette série, j'ai choisi le psaume 104, qui est un poème qui loue un Dieu qui crée. Il a créé dans le passé et il continue à créer de nouvelles choses aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de penser Dieu. Il y a le courant athée qui dit « c'est absolument sûr, c'est sûr, il n'y a pas de Dieu ». C'est des processus naturels qui se sont produits sans intervention externe. Ils se sont simplement mis en route un peu par hasard et nous sommes là aujourd'hui ici. Et c'est très intéressant de parler avec un véritable athée, un athée qui est vraiment convaincu, parce qu'il faut beaucoup de foi pour croire que ce monde merveilleux est juste le fruit du hasard. Par exemple, pour des gâteaux et des desserts, Clarissa, elle cuisine beaucoup mieux que moi. Et parfois, je suis la recette, je pense, à la lettre, et le résultat n'est pas aussi bon que celui qu'elle fait. Et si un jour je pensais, je ne vais pas suivre la recette du tout, je vais tout mettre les ingrédients dans un sac, je vais les secouer, je vais verser le tout dans un moule, je vais fermer les yeux pour ajouter la température, pour le temps dans le four, je mets dedans, peut-être là mon gâteau va sortir parfait, comme je l'avais souhaité. C'est un peu absurde de penser comme ça, non? Et je parle seulement d'une chose inanimée, c'est un gâteau. Et si je parlais d'un lave-vaisselle ou d'un ordinateur ou d'une voiture. D'abord, comment créer par hasard une vis et un boulon qui s'emboîtent parfaitement, qui soient de la bonne taille pour entrer? Ensuite, si par hasard on a réussi à produire deux pièces qui matchent ensemble, comment faire pour les emboîter par hasard? Et après, dans l'ensemble des pièces d'une voiture, quelle chance de mettre par hasard cette vis et ce boulon au bon endroit pour qu'ensuite ça tienne le tout. Je pense que c'est pratiquement zéro la chance que ça se produise par hasard. Et ce monde, il est beaucoup plus complexe qu'un lave-vaisselle ou qu'un ordinateur ou qu'une voiture. C'est pour ça que la grande majorité des personnes que je connais qui avant se disaient athées, aujourd'hui ils se disent agnostiques. Et un agnostique, c'est quelqu'un qui dit « on ne peut pas savoir s'il existe un Dieu ou non ». Donc, le raisonnement est peut-être il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui a mis ce tout en route. Peut-être pas, on ne peut pas savoir. Donc, je vis ma vie comme si elle n'existait pas. Et là, je dis, c'est quand même un peu lâche de réfléchir comme ça. Parce que c'est juste pour ne pas pousser le raisonnement logique jusqu'à la fin. Parce qu'il y a d'autres personnes comme des chrétiens, des musulmans, des juifs qui disent, oui, on peut savoir avec certitude qu'il y a un Dieu, justement parce que ce monde, il est trop merveilleux pour être juste du hasard. Le fait que le monde soit aussi complexe avec toutes ses lois pour que la vie existe, c'est une preuve suffisante que quelqu'un a planifié et dirigé le processus de création, quel qu'il soit ce processus. Du coup, nous on dit, regarde autour de toi mon ami, il n'y a pas besoin de preuves supplémentaires pour l'existence d'un créateur. Et bien sûr, le psaume 140, l'auteur du psaume 104, pardon, il a ce même regard. Il voit Dieu dans la création. Et comme j'ai dit, c'est un poème, le psaume 104. Dans le verset 34, il va dire « Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant que mon poème lui soit agréable. » Donc, il écrit un poème. Un poème n'a pas l'intention d'être scientifique. Un poème veut raconter des choses d'une manière belle pour passer un message pour les gens qui lisent. C'est raconter les choses d'une manière belle pour passer un message. C'est un peu comme Victor Hugo quand il écrit par exemple ce vers « Mon esprit ressemble à cette île et mon sort à cet océan et je suis l'habitant tranquille de la foudre et de l'ouragan. » C'est une image et c'est écrit d'une manière belle dans le but de transmettre un message. Donc on va essayer de comprendre quel message l'auteur du psaume voulait transmettre avec son texte. Et il commence comme ça. « Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char, tu te déplaces sur les ailes du vent, tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. » L'auteur a essayé de trouver une image pour expliquer que Dieu est infiniment grand, qu'il est plein de gloire et de splendeur. Donc il pense à ce qu'il trouve de plus brillant et puissant dans ce monde et il se dit la lumière. La lumière est partout, elle chauffe, elle chasse les ténèbres, elle produit la vie. Et il commence en disant « Le manteau de Dieu, c'est la lumière. » Dieu, il s'habille avec cette puissance, il éclaire tout. Ensuite, il règne sur toute la création et pour dire ça, il prend l'image des rois de l'époque qui construisaient leur château au sommet des collines. Et il dit que Dieu, lui, il construit son palais au-dessus des nuages, dans les cieux, pour dire qu'il est encore plus élevé que les rois humains. Ses hauts palais sont inaccessibles. Et comme les rois se déplaçaient avec leurs chars pour prouver leur souveraineté, lui, il va dire, lui, il se déplace sur les ailes du vent pour montrer sa souveraineté. Et il continue en disant, « Tu fais des vents, tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. » Pour dire les forces de la nature annoncent un message de la part de Dieu. Mardi dernier, après les Kids Games, je suis allé avec les enfants à la piscine. Il y avait aussi Aline, Ruben, Eliam et Liane. Et aussitôt qu'on est arrivé, on a posé nos sacs. Un orage a commencé avec un vent très fort. J'ai dit, viens Mila, on va marcher jusqu'à là. Je devais porter des trucs, je ne vais pas porter Mila. Elle suivait derrière. Mais il y a les parasols qui ont commencé à s'envoler. Ça commençait à casser des trucs. Les gens commençaient à courir, à crier. Et puis là, ça a effrayé Mila. Elle a commencé à pleurer. En voyant tout ça, il n'y avait pas vraiment de danger pour nous. Mais c'était effrayant. Voir cette pluie, ce vent et les choses qui s'envolaient et les gens qui couraient. Et pour l'auteur du psaume, il y a un message derrière ses forces. Et je pense qu'un des messages des forces de la nature est Dieu existe. Et c'est lui qui les a voulus, qui les a créés. Pensez à ça la prochaine fois qu'on aura un orage. Tu fais des vents, tes messagers et les éclairs sont tes serviteurs. Et en parlant de l'orage, il continue à penser à l'eau. Et il dit, il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Dans ce passage, l'auteur pensait peut-être au récit de la création, quand dans Genèse 1, l'eau couvrait toute la surface de la terre et Dieu a fait de l'espace pour que la terre surgisse. Ou alors il pensait à la fin du déluge, quand l'eau descend et les montagnes réapparaissent. Mais à moi, ça m'a fait penser à un musée qu'on a visité pendant les vacances. C'est un musée dédié à une région du nord-est du Brésil qui est très aride. Nord-est, c'est du coup la région de Recife, c'est au bord de la mer. Et puis il y a une région plus au centre, à la campagne, qui est très sèche. Pendant des mois, il n'y a pas de pluie. Et dans la végétation, c'est beaucoup de cactus, beaucoup d'arbustes, presque sans feuilles toute l'année. Et dans ce musée, il montre comment les gens vivent dans ces régions et comment c'est la culture, la musique qu'ils produisent, les habitudes dans un endroit si aride. Eh bien, dans ce musée sont exposés des fossiles de gros poissons qu'ils ont trouvés justement dans cette région aride. Ce qui prouve qu'il y a des milliers d'années, c'était bien soit un immense lac, soit une mer, je ne me rappelle plus. Du coup, ça existait beaucoup d'eau dans cette région et la preuve, ce sont des fossiles de poissons qu'on y trouve encore. Et à un moment donné, l'eau a fui et a laissé l'espace pour que la terre apparaisse. Et l'auteur continue à louer Dieu pour l'eau. Il est en train de dire « l'eau est merveilleuse ». Il dit « c'est toi qui fais jaillir des sources dans les ravins et les torrents s'écoulent entre les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans leur feuillage. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts. La terre est remplie des bienfaits du fruit de ton ouvrage. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile, et le pain restaure sa vigueur. En partant des sources d'eau et des pluies, le poète fait tout le parcours de l'eau pour montrer toute la vie qui peut exister grâce à l'eau. D'abord pour les animaux et les plantes, jusqu'aux champs pour produire la nourriture pour l'homme. L'armée du salut suisse, sachant que l'eau est tellement précieuse que ça, elle a un projet appelé WASH. Et puis ce projet, il est en place dans toute l'Afrique, c'est la prochaine image. Et puis dans ces pays d'Afrique, c'est où il y a le projet WASH qui est développé et soutenu par l'armée du salut suisse. Et puis ils font tant de l'accès à l'eau, c'est le W de WASH pour Water. Ils installent des pompes à l'eau souterraine ou des réservoirs, des systèmes de récupération d'eau de pluie. Après, ils font aussi des installations sanitaires et une construction de toilettes hygiéniques dans les écoles et les communautés pour que l'eau bien utilisée puisse prévenir des maladies. Et puis sinon, ils font des cours de santé et hygiène pour réduire les maladies chez les enfants. Et puis, ils font aussi des jardins communautaires irrigués pour subvenir aux besoins des familles. Et l'année dernière, notre église a pu offrir à plus de 523 familles au Kenya des citernes à eau de pluie avec un modèle de cofinancement. L'armée du salut entrait une partie, mais eux devaient aussi faire l'effort de trouver une partie du financement pour construire la citerne. Et maintenant, ils ont plus de temps pour, par exemple, pour l'école, pour le travail, pour le repos, au lieu de faire des longs trajets pour aller chercher de l'eau qui était contaminée tous les jours. Et c'est intéressant que dans la Bible, il y a tout un passage, et ce n'est pas le seul qu'on vient de lire, où l'auteur veut simplement écrire pour remercier Dieu pour l'eau. Dire « Merci Dieu pour l'eau, et tu es merveilleux parce que tu as créé l'eau. » C'est merveilleux et je veux te louer. À la fin de ce chapitre, il dit « Gloire à jamais à l'Éternel, je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant. Célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai, que mon poème lui soit agréable. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. » Voir la création le pousse à l'adoration. Et Jésus, quand il était sur terre, il a eu l'audace de dire « Je suis une source d'eau. » C'est quand même audacieux de dire ça. J'avais un prof au conservatoire qui aimait dire les choses qui lui passaient par la tête, sans réfléchir. Un jour en classe, il m'a regardé, et les autres élèves, il a dit « J'aime pas cet idéal chrétien de modestie. » Comme si on pouvait pas dire les bonnes choses que nous on fait. Moi, je peux dire à tout le monde, je suis le meilleur chef d'orchestre de ce conservatoire. Je suis le meilleur chef d'orchestre. Il n'y a pas mieux que moi pour faire ce travail. Il a dit. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est d'ailleurs lui qui avait créé un projet pour que l'orchestre du conservatoire aille dans ces régions arides du Nord-Est pour diffuser la culture classique dans ces endroits reculés. Du coup, ils voyageaient, c'était un projet avec le gouvernement. Ils prenaient tout l'orchestre, ils étaient hébergés, ils payaient le transport et ils allaient se présenter. Au lieu de présenter les salles de concert dans une grande ville, ils allaient dans tout plein de petites villes de la campagne et ils présentaient la musique classique. C'était très beau. Mais peut-être c'était vrai qu'il était le meilleur chef d'orchestre du conservatoire. Je ne sais pas si Jésus serait d'accord avec cette idée de mon prof que la modestie est mauvaise, mais en tout cas, Jésus l'a dit franchement qui il était et ce qu'il faisait. Et il a dit, par exemple, Jésus, debout, a dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. » Jésus ne s'est pas caché sous de fausses modesties. Il a eu le courage de dire sur lui-même, « Moi, j'apporte autant à quelqu'un que l'eau apporte à la planète. Si tu viens à moi, il y a des fleuves d'eau qui couleront de ton cœur, une eau qui donne la vie. » Ça veut dire que de nouvelles choses peuvent prendre vie quand on vient à Jésus, tout comme tout au fil de la rivière, il y a de la vie qui surgit, peu importe où il y a de l'eau. Et puis il y a quelqu'un d'autre, il a dit la même chose, mais un peu d'une autre manière. Il a dit, si quelqu'un boit de cette eau, en montrant un puits, il a dit, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Tout comme l'eau apporte la vie dans ce monde, Jésus a dit, si vous venez à moi, moi je vais apporter la vie, du sens à votre vie, plus que toute autre chose. Et je pense qu'il a dit vrai. Et si on regardait ton cœur aujourd'hui, comment serait l'approvisionnement en eau? Est-ce qu'il y aurait de la vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait ce fleuve qui donne la vie? Ou est-ce qu'elle serait sèche, ton cœur serait sec, comme certaines régions de l'Afrique, et tu dois perdre du temps en allant chercher de l'eau pour te satisfaire, qui en plus est sale, et que ça peut même causer des maladies? Ou peut-être dans ton cœur, on verrait des fossiles de n'importe où il y avait de l'eau dans le passé, comme dans le nord-est brésilien, mais maintenant, tu as perdu l'eau, tu as perdu la vie qui a un temps à habiter dans ton cœur. Jésus il a dit, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire, et des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. La semaine prochaine, on va continuer dans le psaume 104, mais on sera dans la nature. Sur le site, vous pouvez voir où on se rencontre. On va faire une marche d'une heure et on va continuer à méditer sur le psaume 104. Et si des gens ne veulent pas marcher, ils peuvent nous rejoindre directement au lieu où on va faire le culte. Et on va essayer de se connecter avec Dieu au milieu de la nature. Du coup, on n'aura pas de culte ici, mais on continue à méditer sur ce monde incroyable créé par Dieu. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour l'eau. L'eau, elle est merveilleuse, elle apporte la vie. Merci parce qu'on est dans un pays qui est riche en eau et de l'eau de qualité. Seigneur, que comme le psalmiste a fait, qu'on puisse prendre le temps de remercier, c'est vraiment un bien précieux. Tandis que dans d'autres pays, ils doivent des fois se bagarrer pour avoir de l'eau, ou faire de grands efforts pour trouver de l'eau. Et on veut te louer pour cela. Et on veut te voir, le Dieu créateur, au milieu de la nature. Que ce soit au travers l'eau, ou au travers des plantes, des animaux, au travers notre propre corps, la vie des humains. On veut voir un Dieu créateur. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse avoir envie de te louer, parce que ce monde est vraiment merveilleux. Et je te demande aussi qu'on puisse le communiquer, aussi le dire. Mais est-ce que ce monde n'est pas trop merveilleux pour que ça soit juste du hasard? Et puis est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est déjà venu pour montrer qui est Dieu, pour dire en fait Dieu existe et il a marché sur terre? Qu'on n'ait pas honte de le dire, Seigneur, de le témoigner, que ce monde est trop merveilleux pour être juste le fruit du hasard. Et Seigneur, si notre cœur, ou le cœur de certains ici ce matin, est sec, peut-être a déjà goûté à un temps l'eau qui apporte la vie, du sens, mais qui en ce moment se trouve sec, Seigneur, que cette personne puisse se rapprocher de toi, pour que tu puisses apporter la vie de nouveau, Seigneur. Tu puisses déverser ton eau qui apporte du sens à tout ce qu'on fait, qui apporte la vie à la vie, Seigneur. Et nous-mêmes, qu'on puisse aller tous les jours puiser dans cette eau, Seigneur, pour que notre vie ne dessèche pas non plus. Au nom de Jésus. Amen.